tout de suite, c'est le journal de Claire Fauchel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Il s'accroche à son ministère de l'écologie, mais les ennuis s'accumulent pour François de Rugy. Derrière lui, la majorité essaie de tenir les rangs, mais l'opposition tire à boulets rouges sur un ministre très fragilisé.
Après la mort de Vincent Lambert hier, ces questions se posent ce matin. Faut-il écrire ces directives anticipées, donner des instructions sur sa propre fin de vie?
Il faut s'y pencher, nous dira l'ancien président de l'Observatoire national de la fin de vie, mais pas forcément les rendre obligatoires. Plus de 88% des bacheliers ont décroché leur bac, mais ce n'est pas pour autant la fin du conflit entre le ministre et les enseignants. Explication dans ce journal. Et puis on reviendra sur la mission diplomatique de la France en Iran, pour le moment sans grand résultat. Sa convocation en urgence à Matignon dans l'après-midi laissait présager hier un départ imminent. Finalement, François de Rugy reste ministre de l'écologie, simplement recadré par le chef du gouvernement. Édouard Philippe lance même une enquête à son encontre sur les travaux réalisés aux frais du contribuable dans son appartement de fonction. Le ministre lui s'engage à rembourser chaque euro qui serait contesté à l'issue de cette inspection, tandis que les autorités de contrôle de l'Assemblée nationale, elles vont étudier de près les dîners arrosés de grands crus. François de Rugy épinglé aussi désormais pour la location d'un appartement social près de Nantes. Nouvelle révélation de Mediapart, une situation que l'opposition dénonce et que la majorité a elle-même du mal à justifier. Rosalie Lafarge.
La réponse est-elle à la hauteur des enjeux? Hervé Berville, député La République En Marche, n'a pas l'air follement convaincu.
Ça me paraît une réponse, en tout cas à l'émoi que cela a suscité. François de Rugy est allé s'expliquer. Le Premier ministre a pris ses responsabilités en faisant les choses très rapidement, très clairement. C'est tout à fait légitime de se poser des questions et c'est du coup très légitime que les responsables politiques apporte les réponses très précises.
Mais en termes de précision, pour l'instant, on n'y est pas. Pour Delphine Bateau, première à réclamer la démission de François de Rugy, l'ancienne ministre de l'écologie dénonce un flou artistique gênant.
On nous disait que c'était des dîners informels, je n'ai rien à me reprocher. Maintenant, on dit qu'on va faire examiner par une commission désignée par le gouvernement lui-même. Bon, c'est pas clair et c'est pas tenable.
Pas tenable non plus, selon Gilbert Collard.
Il aurait dû, à mon avis, de lui-même démissionner.
Le député Rassemblement National ne croit pas une seconde à un remboursement de frais éventuellement contesté.
On nous prend pour des benêts. Bon, attendez, la déontologue, je crois que c'est lui qui l'a nommé. Il est bien évident que les personnes qui vont être éventuellement entendues ne vont pas dire on est venu là pour bouffer. Hein. Bon, elles vont tous dire on est venu là pour discuter politique. Bon, donc on nous prend pour des imbéciles en initiant cette procédure.
Hein. Gilbert Collard qui prévient, l'affaire n'est pas finie et Mediapart confirme. Le site d'information poursuit son feuilleton et révèle désormais la location par François de Rugy d'un appartement près de Nantes. Un appartement qui serait à loyer social préférentiel. Si c'est vrai, je n'en ai moi-même jamais eu connaissance, se défend le ministre de l'écologie.
Rosalie Lafarge. Une autopsie doit être réalisée ce matin sur le corps de Vincent Lambert, l'homme qui était depuis 6 ans au cœur d'une bataille judiciaire au sein de sa propre famille pour son maintien en vie et décédé hier matin, 9 jours après l'arrêt de ses traitements. Et dans ce contexte très spécial, le parquet de Reims a en effet demandé cette autopsie pour s'assurer simplement que la loi a bien été respectée, autrement dit que Vincent Lambert est bien mort des suites d'une sédation profonde et non euthanasiée. Son cas depuis des semaines pourrait pousser des Français en tout cas à rédiger leurs consignes à leurs proches sur leur propre fin de vie. Vincent Lambert, lui, n'avait laissé aucune instruction. Or, selon la loi clé Leonetti, si ces directives anticipées existent, elles s'imposent aux médecins du patient qui doit donc les appliquer. Des demandes de directives anticipées qu'il faut véritablement penser. C'est l'avis de Régis Aubry, chef du service des soins palliatifs au CHU de Besançon et ancien président de l'Observatoire national de la fin de vie.
Je ne crois pas qu'on puisse rendre obligatoire quelque chose qui n'est pas possible. Très clairement, écrire des directives anticipées, je ne sais pas si vous avez écrit les vôtres, mais c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, qui oblige à se projeter dans un espace où on n'a pas envie d'aller, où on ne peut pas être. Donc c'est compliqué. Des directives anticipées, il faut inciter à ce que les gens aboutissent à en écrire. Mais inciter, ça veut dire que quand quelqu'un est malade ou quand quelqu'un parle, par exemple, de ces situations-là, on entreprend, on ouvre une discussion qui peut être longue. C'est un cheminement. Les directives anticipées, c'est pas un simple écrit, c'est le fruit d'un long cheminement, d'une réflexion sur soi-même, sur la finitude, sur la mort. Vous voyez, c'est quelque chose qui doit être accompagné par des professionnels de santé, mais pas forcément des amis, etc. C'est pouvoir parler et reparler et revenir, et puis petit à petit se faire une idée, puis une opinion, puis des arguments qui vont être couchés sur le papier pour aboutir à ce qu'on appelle des directives anticipées. Mais c'est pas dans l'urgence qu'on peut faire ça, et ça n'est pas obligatoire pour moi. C'est pas obligatoire au sens où, quand bien même on en discute, on n'arrive pas forcément à matérialiser un écrit. C'est très compliqué.
L'ancien président de l'Observatoire national de la fin de vie, Régis Aubry. La fin du procès de France Télécom pour harcèlement moral, il aura duré près de 2 mois. Jugement le 20 décembre prochain. Le parquet a requis le maximum prévu par la loi. 1 an de prison contre Didier Lombard, l'ex-PDG.
France Culture 8h06, c'est la suite de votre journal Claire Flochel avec les résultats définitifs du baccalauréat qui ont été publiés. 88,1% de réussite, soit un résultat stable par rapport à l'an dernier.
Et ce matin, Jean-Michel Blanquer revient à la charge. Le ministre de l'Éducation parle de sacrilège dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Après la grève des profs et leur rétention des notes du bac, il se félicite tout de même de n'avoir pas laissé faire ce qu'il appelle une tentative de déstabilisation scandaleuse, ce qui ne devrait pas aider à faire retomber la polémique déjà bien enflée. Candidats, parents, professeurs, beaucoup continuent de dénoncer une rupture d'égalité. Certains élèves, en effet, Théo Conscience, ont pu choisir entre leurs notes de contrôle continu et celle de l'examen final, d'autres non.
C'est le premier bac inégalitaire dans l'histoire.
L'opinion de ce professeur d'histoire-géographie est partagée par beaucoup de lycéens et de parents d'élèves. Certains candidats recalés ont même déjà déposé des recours. Mais mauvaise surprise, sur Parcoursup, leur profil a été supprimé. Rodrigo Arenas, coprésident de la Fédération de parents d'élèves FCPE.
Tous les élèves qui avaient fait des demandes de recours gracieux, en fait, ils sont considérés comme défaillants au bac. Donc toutes leurs options, tous les vœux qu'ils ont fait sur Parcoursup, ils n'existent plus. Donc ça veut dire que tous ces enfants-là qui vont aller dans une démarche de recours gracieux avec l'institution qui a créé le chaos dans lequel nous sommes, si demain ils en disent « ouais, on s'est trompé, on a une vraie erreur matérielle sur vos résultats », eh ben il va falloir qu'ils reprennent tout à zéro pour pouvoir aller à la fac.
Depuis mardi, la ligne téléphonique mise en place par la FCPE et l'UNL n'arrête pas de sonner. En tout, plus de 20 000 appels de candidats et de parents qui s'estiment lésés. Pour mettre fin à cette confusion, le syndicat lycéen UNL demande à ce que les candidats soient remis sur un pied d'égalité. Héloïse Moreau en est la présidente.
Ce qu'on souhaite à l'heure actuelle pour les candidats qui ont été refusés, c'est qu'ils puissent, sur certaines notes, choisir la moyenne à l'année, ce qui peut leur permettre soit de passer au rattrapage, soit d'être directement admis. Et pour les personnes qui passeraient au rattrapage, qu'ils puissent passer une session de rattrapage en septembre. Et que s'ils sont définitivement admis, qu'ils aient une place à la fac en septembre.
La FCPE, elle, va même plus loin. Elle demande à ce que tous les candidats, même ceux qui ont eu leur bac, puissent choisir entre leur note de contrôle continu et leur note à l'examen final.
Malgré tout, le bac est bouclé, le brevet des collèges aussi. Ce sont désormais les vacances pour les élèves et leurs parents. Vous allez être nombreux sur les routes et dans les gares pour ce nouveau week-end de départ. Entre ce vendredi soir et dimanche soir, la SNCF attend 1 400 000 voyageurs dans ses trains. La SNCF qui promet de ne pas reproduire le raté du week-end dernier, d'interminables files d'attente au guichet de plusieurs gares parisiennes. Elle va déployer plus de renforts. Alors à quoi s'attendre? C'est la question à laquelle vous allez tenter de répondre, Hélène Fromanti.
La principale mesure annoncée concerne les 5 gares parisiennes. La SNCF va déployer 150 gilets rouges supplémentaires dans la capitale. Des agents qui s'ajoutent aux 1500 déjà mobilisés au niveau national pour tout l'été. Ils seront mobilisés lors des week-ends de départ pour aider, aiguiller, informer les clients. Mais attention, ces gilets rouges, souvent contractuels, ne sont pas des vendeurs. Selon Didier Aubert de la CFDT Cheminots, l'effet escompté risque donc d'être limité.
Les gens aux gilets rouges peuvent conseiller, réorienter, mais c'est pas eux qui font le service ou qui créent le service. Ils vont pas pouvoir rembourser, faire l'échange de billets, faire accélérer la délivrance des billets. C'est pas une réponse sérieuse. Globalement, le problème est bien plus profond que ça en termes de disponibilité pour les usagers. Si on renforce pas les guichets, on aura les mêmes résultats.
Rouvrir des guichets et également arrêter d'en fermer sous prétexte de rentabilité, voilà la solution au fil d'attente pour les syndicats. Et pour cela, il faut une stratégie de long terme, pas des annonces de dernière minute, assure Bruno Poncet du syndicat Sudrail.
Les files d'attente que vous voyez, ça prouve réellement une déshumanisation des gares. C'est toute une politique qui remonte à plusieurs années, plusieurs structuration qui fait qu'aujourd'hui, il y a un vrai souci. Et je ne pense pas que ce soit des mesurettes qui pourraient changer. Ce qui pourrait réellement changer, c'est de revoir le mode de production, le mode de vente, le mode de commercialisation des billets à la SNCF. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va se régler. Et je pense que si ça n'a pas été anticipé, et on voit bien que ça n'a pas été anticipé, je pense que oui, les gens vont se trouver encore dans une situation un peu compliquée pendant toute la période estivale.
De son côté, la SNCF se défend de vouloir fermer tous les guichets et assure réfléchir à des solutions plus pérennes pour les désengorger. En début de semaine, le groupe a annoncé que des billets de TER seraient bientôt vendus dans des bureaux de tabac.
Direction les États-Unis maintenant et le programme de politique étrangère de Joe Biden. L'ex-vice-président des États-Unis favori de la primaire démocrate, mais toujours talonné par Kamala Harris et Bernie Sanders, a dévoilé hier, durant près d'une heure, sa vision d'une Amérique qu'il entend mettre de nouveau au centre de l'échiquier international. Une vision sans surprise, diamétralement opposée à celle de l'actuel président à New York, Loïc Loury. À New York, les précisions de Loïc Loury.
Des objectifs clairs, des stratégies saines, plutôt que des coups de sang sur Twitter. Voilà comment Joe Biden évoque son programme de politique étrangère. L'ex-vice-président veut redonner crédibilité à une Amérique dont la réputation a été ternie par Donald Trump.
Le monde voit Trump pour ce qu'il est, insincère, mal informé et impulsif, et parfois corrompu, dangereusement incompétent et incapable, selon moi, d'un leadership mondial comme d'un leadership dans notre pays.
Complaisant à l'égard de Vladimir Poutine, amoureux de Kim Jong-un et donc impulsif dans ses décisions, Joe Biden s'attacherait à défaire ce que Donald Trump a fait, notamment sa guerre commerciale contre la Chine.
Être dur avec la Chine, tout ce que ça a apporté comme conséquence, c'est que les fermiers américains, les ouvriers, les consommateurs y perdent et paient plus.
Retour dans l'accord sur le nucléaire iranien, retour dans l'accord de Paris sur le climat, le candidat défend le multilatéralisme honni par Donald Trump.
La marque de Donald Trump, l'Amérique d'abord, trop souvent, a conduit l'Amérique à être seule. Et cela rend plus dur la mobilisation de nos partenaires pour s'occuper des menaces qui pèsent sur notre mode de vie.
C'est pourquoi il propose d'organiser dès sa première année de mandat un sommet mondial sur les valeurs démocratiques. Un autre sommet consacré, celui-là, au climat, se tiendrait aussi dès les 100 premiers jours de sa présidence. Rupture très nette avec la politique menée par Donald Trump. Reste désormais pour l'ex-vice-président à se faire élire.
Reportage signé Loïc Loury. La France veut agir sur le terrain diplomatique pour contribuer à une désescalade en pleine crise sur la question du nucléaire entre l'Iran et les États-Unis. Emmanuel Beaune, le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, a donc passé cette semaine 2 jours à Téhéran. Mais pour le moment, Franck Madvon, la mission française n'a pas été vraiment couronnée de succès.
Résumé un peu hâtivement, la mission d'Emmanuel Beaune à Téhéran n'a rien donné. Seul motif de satisfaction, les Iraniens eux-mêmes ont fait la publicité de la démarche française qui se voulait discrète, ils se disent intéressés. Mais ils ne changeront rien, donc, à leur stratégie si les États-Unis ne font pas un geste. Ils sont prêts à résister face à la pression de Washington, à résister longtemps. Victime des sanctions américaines, l'Iran viole un à un les engagements de l'accord nucléaire de 2015, des manquements toutefois limités et réversibles, se rassure l'Élysée. Alors, quelles concessions pourrait bien faire Donald Trump? C'est très clair, les Iraniens attendent un geste sur le pétrole, un moyen d'écouler leur brut sans encourir de sanctions, des exemptions par exemple avec certains pays. Mais le président américain a justement menacé cette semaine l'Iran de nouvelles sanctions. La France en est convaincue, c'est de l'affichage, de la com. Au fond, Trump veut négocier, possible, mais pour le moment, les efforts de Paris sont vains et les positions de l'Iran et des États-Unis inflexibles.
Franck Madvon. L'Algérie s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations hier soir contre la Côte d'Ivoire. Il s'agit bien de football. Score final 4-3. Alger, qui est le théâtre depuis 5 mois d'un mouvement populaire de contestation contre les responsables politiques, a savouré la victoire hier. La colère dans la rue a laissé place à la liesse. Leïla Berhatou.
Les supporters des clubs locaux avaient beau mettre l'ambiance, la tension montait au fur et à mesure du match. Dans ce stade de quartier, des milliers de personnes exultent alors que Raïs Mbolhi arrête le dernier tir au but.
De côté technique, de côté psychique, ils sont forts, ils sont bien. On a un bon entraîneur et puis c'est tout ce qu'il nous faut pour gagner.
Dans les tribunes, des jeunes mais aussi beaucoup de femmes et d'enfants, Hanan est venue avec toute sa famille et elle est assise à côté des clubs de jeunes supporters.
On est tous frères et sœurs, tous. Ça a changé.
Qu'est-ce qui a changé?
Il n'y a pas les embêtements, on est normal. Je suis très contente. Vive l'Algérie!
Pour Oussama, 21 ans, cette victoire, c'est un signe d'espoir.
On a deux équipes de très haut niveau, on a un banc de fou, on a un entraîneur de fou. Le peuple commence à sortir de l'ombre. Je pense que ça ira mieux. Peut-être pas en 2020, peut-être pas en 2021, mais ça ira mieux.
Dans la soirée, des milliers de véhicules se dirigeaient vers le centre de la capitale pour célébrer le passage en demi-finale.
Ambiance sereine en Algérie, en France. En revanche, des incidents se sont déroulés dans la soirée sur les Champs-Élysées en présence de plusieurs milliers de supporters. Certains en ont profité pour piller plusieurs magasins. Une trentaine de personnes ont été interpellées. Puis on vient d'apprendre qu'une personne était morte et qu'une autre avait été gravement blessée à Montpellier. Hier soir, un supporter algérien a percuté une famille qui était sur un trottoir avec sa voiture et il a été placé en garde à vue. Le temps de ce vendredi, il est variable sur la majeure partie du pays, mais le soleil va s'imposer au fil de la journée. Les températures sont comprises ce matin entre 14 et 23 degrés.